est une rediffusion.
L'Atelier des médias.
Salut, c'est Ziad Malouf de l'Atelier des médias. Il y a deux débuts à l'histoire que je vais vous raconter pour commencer l'émission. Le premier, pour nous, et le plus proche, c'est le 30 juin 2015. Ce jour-là, l'excellent blog AFP Making Of publie un article signé François Becker et Valentin Bontemps. Son titre, « Journaliste en banlieue ». Il faut savoir corriger le tir. Je vous lis les premières lignes de ce texte. Cette nuit-là, à Montreuil, personne n'a pensé à éponger la flaque de sang. L'ambulance a ramassé le corps. Les enquêteurs ont relevé les impacts de balles. Un suspect a été arrêté. Une première dépêche est partie. L'histoire aurait dû en rester là, celle d'un énième règlement de compte, probablement entre trafiquants. L'autre début de cette histoire se déroule donc un matin de juillet 2014, celui qui suit la nuit du drame. François Becker, co-auteur du texte que je viens de citer, qui était alors chargé de couvrir la Seine-Saint-Denis pour l'agence France Presse, s'en rappelle.
Je me souviens, c'est un règlement de compte en pleine nuit, hein, un jeune homme qui prend plusieurs balles sur la voie publique, hein, il est en train de manger des pizzas avec des copains à lui, une moto ou une voiture passe devant, leur tire dessus et donc il y a un mort. Voilà, globalement, ça c'est l'information qu'on a le matin.
Il est environ 8h du matin et avant de se rendre sur le lieu du drame, François Becker envoie donc une première dépêche qui commence ainsi. Un jeune homme de 28 ans a été tué par balle dans un règlement de compte à Montreuil. Dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris de sources policières.
Quand on arrive, il y a un homme en train de nettoyer les flaques de sang. Et il se trouve que c'est pas juste un habitant du quartier, c'est aussi un ami de la victime et qu'il était là au moment des tirs. Donc au début, il veut pas du tout nous parler, et ben on range un peu nos calepins et on lui explique un petit peu le sens de notre travail. Et voilà, il est indispensable pour nous d'avoir sa parole ou la parole de quelqu'un comme lui pour pas avoir la seule version policière. Donc c'est comme ça qu'on arrive à le convaincre de nous parler.
Ce que leur dit le témoin, c'est que la personne qui a été tuée n'a rien à voir avec le trafic de drogue. Quelques heures après, écrit François Becker, une source judiciaire confirme que la victime était inconnue de la police et n'avait pas de casier judiciaire. Nous actualisons la dépêche, ajoutant toutes ces sources et supprimant la référence au règlement de compte entre trafiquants, de plus en plus sujette à caution, mais nous garderons un soupçon de mauvaise conscience. Fin de citation.
On a comme un sentiment de culpabilité, parce que c'est vrai qu'un peu machinalement, on a recopié ce que nous disaient nos sources, voilà l'hypothèse d'un règlement de compte. Et là, on se retrouve en face des protagonistes eux-mêmes et on a l'impression d'avoir été un peu vite en besogne. Et il faut effectivement corriger le tir, quoi. C'est vraiment le sentiment qu'on a.
Aller sur le terrain pour dérouler le fil de la réalité, vérifier les informations, confronter les sources, c'est le travail de base du journaliste. Quelques heures après avoir fait de cette victime que tous les éléments montraient innocente un criminel probable, l'AFP a publié une autre dépêche qui ôte les soupçons. Mais aujourd'hui encore, vous trouvez partout sur internet des extraits de la première version, celle qui fait du gardien d'immeuble un probable trafiquant de drogue. Cette histoire est tragique, mais elle est aussi humaine. Elle montre les limites de notre univers médiatique, plus encore quand il traite des périphéries urbaines comme la Seine-Saint-Denis, ce département qui jouxte le nord-est de la capitale.
C'est vrai que dès qu'il y a Seine-Saint-Denis dans le titre, tout de suite il y a un intérêt plus fort, quels que soient les faits. On voit qu'il y a plus de reprises, plus de journalistes qui s'y intéressent. Il y a une part de cliché, il y a une part de réalité. C'est un mélange entre les deux et c'est pour ça que c'est toujours compliqué. On ne peut pas ne pas écrire sous prétexte qu'il ne faut pas alimenter les clichés parce qu'on cacherait la réalité. Et il ne faut pas non plus alimenter les clichés pour rien, donner des informations qu'on ne donnerait pas forcément dans d'autres départements simplement parce que ça se passe en Seine-Saint-Denis. Voilà, et ça, c'est quelque chose de compliqué. Très honnêtement, on n'arrive pas toujours à faire. Très souvent, on envoie des dépêches et on voit des affaires prendre médiatiquement. Et voilà, on se demande quand on a bien fait notre travail.
L'amour des masses médias pour les faits divers, les petits événements prétendument emblématiques de réalités plus vastes est une étrange idylle. François Becker travaille aujourd'hui à Marseille et c'est en quittant la Seine-Saint-Denis que lui et son confrère ont souhaité partager cette petite histoire, ce petit échec, une manière de dire que même eux, pourvoyeurs d'informations pour la presse, même eux, ils pouvaient se tromper et regretter amèrement un mot ou une tournure passée alors inaperçue.
L'Atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous, vous.
C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Partout et de retour au Artout. C'est parti, ça vient de Saint-Denis direct. Issu de la génération funky taquini. Pas de soucis, non pas de chipi ici. Pas de chichi si tu dérapes, on te
chie dessus.
Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde sont étiquetés, peur à mais c'est comme ça qu'on nique tout. Le bénéf, le business, mais c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'embrassent. Et ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Et tout cela je les stoppe à base de pop.
Sen.
Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop. Et pour le hip-hop je développe la Seine-Saint-Denis. C'est la bombe bébé. Et si t'as le pédigré ça se reconnaît au début.
Vous l'aurez compris, cette semaine, nous sommes encore en banlieue pour explorer les relations entre ces zones périurbaines et les médias d'information français. Nos deux invitées sont deux femmes journalistes. Elles ont choisi de tout faire pour ne pas participer au bruit. Elles ont changé leur méthode de travail, pris du temps. Pendant un an, elles ont sillonné les voies, les allées, les avenues, les halls d'immeubles, les jardins de Clichy-sous-Bois, la ville où les émeutes de 2005 ont débuté il y a 10 ans. Elles viennent de publier un livre qui raconte leur expérience. Une année à Clichy, la ville qui rêvait qu'on l'oublie. Elles sont au micro de Manon Mella.
Bonjour, je suis Joséphine Lebar, je suis journaliste indépendante et j'ai coécrit avec Barb McCoy Une année à Clichy, la ville qui rêvait qu'on l'oublie.
Bonjour, je suis Barb McCoy. Alors moi j'ai grandi à Rosny-sous-Bois et je suis journaliste. Donc je suis journaliste et d'origine banlieusarde, si on peut dire ça comme ça.
Moi, j'ai grandi aussi dans une ville en sous-bois, mais qui s'appelle Pavillon-sous-Bois, qui est aussi située en Seine-Saint-Denis. Voilà, une famille de la bourgeoisie moyenne, comme on en trouve plein en banlieue, mais qu'on ne montre pas beaucoup.
Vous êtes toutes les deux journalistes et auteurs du livre intitulé « Une année à Clichy, la ville qui rêvait qu'on l'oublie », paru le 21 octobre. De quoi parle ce livre, Joséphine ?
D'abord, avant d'un conseil, il est parti d'une envie. C'est-à-dire qu'avec Bahar, on s'est rencontrés quand on était ados dans un atelier d'écriture, en Seine-Saint-Denis justement, un atelier d'écriture dans lequel on était parrainés par des journalistes professionnels et où on écrivait des suppléments pour des titres nationaux. Alors on a travaillé pour Le Monde de l'Éducation, pour Libération, Télérama. Donc on s'est rencontrés comme ça avec Bahar. Et puis on a toutes les deux fait un peu notre vie. Et puis grâce à Facebook, on s'est retrouvés. Et puis, en se retrouvant, on s'est dit, bah quand même, ce serait chouette d'écrire ensemble, parce que on a toutes les deux, dans notre cursus, travaillé sur la banlieue. Et l'expression est pas très jolie, mais j'en vois pas d'autre. On avait toutes les deux un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que on avait travaillé sur Clichy, après les émeutes, toutes les deux, pour des médias différents. Et quand on allait à Clichy, on avait d'un côté des clichois qui nous disaient, oh non, non, les journalistes, c'est bon, on en a marre, on les a trop vus, là, c'est bon, vous nous saoulez. Et de l'autre, on voyait aussi des représentations de la banlieue qui ne collaient pas avec ce que nous, on en connaissait en y ayant grandi. Donc on avait l'impression d'être au milieu du guet entre les banlieusards et les journalistes en étant l'un et l'autre. Donc on s'est dit, bah alors faisons ce qui a été reproché de ne pas avoir été fait, c'est-à-dire prenons le temps. Donc baladons-nous un an à Clichy et racontons les gens, racontons les lieux. On y passe en plus que une demi-journée. Donc on a décidé d'y passer un an et voilà, et de récolter ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, sans rosir le tableau, mais sans le noircir non plus, en essayant d'être au plus juste de ce qu'était cette ville.
Bar, c'est vrai qu'on a voulu combler un manque. En fait, on s'est rendu compte en y retournant toutes les deux qu'aussi, en tant qu'individu, on avait un manque. On était assez attristés par ce qu'on voyait de l'image de la banlieue dans les médias français. On s'est dit, comme on la connaît, comme on y est attaché, peut-être qu'on va réussir à la raconter autrement. Et c'est ce qu'on a fait dans le livre. Et au départ, quand on est allé se balader à Clichy-sous-Bois, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. On ne savait pas si ça allait être un livre ou autre chose. Et puis en parlant aux uns et aux autres, on s'est rendu compte que ça suscitait l'intérêt. On était surprise aussi. Donc c'est qu'il y a des choses à faire, en fait. On s'est rendu compte que les gens avaient envie qu'on leur raconte la banlieue autrement. Il faut juste avoir l'occasion de le faire.
Ça commence aujourd'hui, le 27 octobre 2014. Il fait beau ce matin sur Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Le brouillard a consenti à laisser la place à un soleil qui n'est plus de saison, doré et enveloppant. Devant la mairie, les places sont bien réparties. À gauche, quelques journalistes patientent, tandis qu'en face, une poignée d'habitants attend, elle aussi. Sur les marches de l'hôtel de ville, il y a ces trois couronnes où se mêlent Glaïeul, Amaryllis et Fleur des Champs, auxquelles tous lancent des regards furtifs. Dans quelques minutes, notre cortège s'ébranlera vers une stèle installée quelques mètres plus bas, en face du collège Robert Doisneau. Elle commémore la mort accidentelle de Ziad Bena, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans. Deux ados clichois électrocutés dans le transformateur EDF voisin, alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police le 27 octobre 2005, il y a 9 ans. 9 ans après, pour nous, le voyage commence. À l'aube du 10e anniversaire des événements, révolte, émeute, la terminologie diverge selon qui en parle. Nous décidons de passer une année à Clichy, de raconter cette ville, ses habitants, d'arpenter ses rues, de mesurer les changements intervenus, les situations figées, de parcourir les allées de sa forêt, de grimper en haut de ses tours dont les ascenseurs ont rendu l'âme depuis belle lurette, de squatter les banquettes du McDo, de traîner du côté des terrains de sport, du hammam, des mosquées, de contempler l'incroyable vue sur l'Île-de-France depuis ses hauteurs. Nous choisissons de faire ce que beaucoup ont reproché aux membres de notre corporation, les journalistes, de ne pas avoir fait, prendre le temps.
Quand vous voyez Clichy-sous-Bois dans les médias, on va vous mettre une immense photo du chêne pointu. Le chêne pointu, c'est la copropriété du Bas-Clichy, complètement dégradée, j'ai envie de dire très photogénique, hein, aussi avec cette grande tour, avec le linge qui pend aux fenêtres, le côté Décati. Sauf que c'est une infime parcelle de Clichy. Bizarrement, dans la presse, moi j'ai jamais vu une photo prise depuis les hauteurs de Clichy, à côté du collège Robert Doisneau, où il y a une superbe vue sur l'Île-de-France, vraiment. Enfin, Bahar sait que c'est une vue que j'aime beaucoup parce que elle est assez incroyable. Moi, jamais j'ai vu les petites rues pavillonnaires plutôt mignonnettes hein, qu'on voit dans le bas Clichy. Jamais j'ai vu pris en photo, pas beaucoup, en tout cas la grande pelouse sur laquelle toutes les familles vont pique-niquer l'été. C'est étrange quand même.
Avec Joséphine, comme on avait le temps, on s'est baladé et on s'est rendu compte, par exemple, qu'à 100 mètres, 200 mètres du chêne pointu, il y a un étang, il y a des pêcheurs, il y a une guinguette. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les médias, parce que je pense que les journalistes n'ont pas le temps. Donc ils vont à Clichy une matinée, ils y vont, ils reviennent. Ils n'ont pas le temps d'aller un peu plus loin, mais quand on a le temps, on peut se balader, on se rend compte qu'il y a cette guinguette, qu'il y a ces pêcheurs, il y a un théâtre à côté sous un chapiteau avec un univers incroyable. Donc on a eu la chance avec Joséphine de pouvoir voir ça parce qu'on avait le temps aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus blâmer nos collègues. On sait que les journalistes n'ont pas le temps, ils vont vite. Et c'est peut-être aussi à cause de ça que parfois il y a des erreurs au niveau de l'image. Les gens qui ont le temps d'y aller, en général, eux, font un meilleur travail. Les localiers, Le Parisien par exemple, ou les radios locales, France Bleu.
Compliqué parce que justement j'allais vous dire que Bahar insistait sur cette notion de temps et c'est vrai que nous c'est un luxe qu'on a pris. Je voudrais rappeler qu'on est journaliste indépendante, alors l'avantage c'est qu'on fait ce qu'on veut, l'inconvénient c'est que pour nous une journée de travail c'est vraiment de l'argent qui rentre ou pas. Alors on a touché un avaloir hein, pour ce livre bien entendu, mais j'ai envie de dire que c'est un luxe qu'on s'est offert. Le problème, c'est que je ne vais pas vous apprendre que la presse ne va pas très bien et que beaucoup de journalistes aujourd'hui sont pressurisés. L'expression n'est pas très jolie, mais en tous les cas, les effectifs sont réduits comme peau de chagrin. On voit bien là, enfin, en ce moment, ce qui se passe à l'Express, où il y a, je crois, plus de 100 postes qui sont menacés. C'est colossal. On ne va pas faire le même travail avec des dizaines de collaborateurs en moins. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on ne blâme pas nos confrères. Ce qui est plutôt à blâmer, c'est un système qui pense qu'il faut faire vite et beaucoup avec peu de gens. Donc effectivement, je crois que le temps est quand même une donnée sans laquelle il est compliqué de bien parler de la banlieue parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est multiforme. On ne peut pas comparer une ville comme le Raincy, qui est en Seine-Saint-Denis, et une ville comme Clichy-sous-Bois, qui est à 2 kilomètres, même pas, puisqu'elles sont limitrophes. C'est deux réalités terriblement différentes. La banlieue, elle est protéiforme. D'ailleurs, pourquoi on parle de la banlieue ? C'est les banlieues. C'est impossible de parler de la banlieue. C'est aussi réducteur que de parler, je sais pas moi, des journalistes ou des musulmans. Vous savez, ces grandes catégories. Ben voilà, je crois que la banlieue, ça n'existe pas. Il y a des banlieues.
Bah, et je dirais qu'à Clichy-sous-Bois, il faut prendre encore plus le temps que dans d'autres villes de Seine-Saint-Denis, parce qu'à Clichy, les habitants ont vu défiler tellement de journalistes depuis 2005 qu'on s'est rendu compte que la confiance a été brisée. Il ne nous faisait pas confiance au départ. Il faut prendre le temps. Il faut qu'il nous voie plusieurs fois. Il faut qu'on discute. Il faut qu'il soit rassuré sur le résultat de ce qu'on va écrire. Ça, c'est important aussi. Peut-être qu'il faut des journalistes spécialisés. Comme ça, ils ont le temps de développer leurs contacts et les gens leur font plus facilement confiance.
Attendre. Les habitants de Clichy ne sont pas nés en colère. Celle-ci est venue plus tard. Leur histoire est celle d'une attente sans fin. L'autoroute devait passer dans les années 60, les cités auraient dû connaître un autre destin. Dans la propriété privée, le bien rêvé de la petite classe moyenne, des aquariums dans les halls, la forêt à proximité pour les balades en famille, vue sur la tour Eiffel depuis le balcon, et Paris à 20 minutes avec l'A87. L'A87 n'est jamais passée. Les propriétaires ont liquidé leurs appartements, les marchands de sommeil ont investi les lieux. Aujourd'hui, on attend toujours le bus à l'arrêt du 347, du 601 ou du 603. On attend 6, 9, parfois même 15 minutes si on a vu le bus nous passer sous le nez. Rapporté à une année, cela fait 8 jours. 504 heures plantées à l'arrêt de bus par temps de pluie, de vent, de neige ou de canicule, les bras chargés, les mains dans les poches, avec les gamins à bout de bras qui s'impatientent. Depuis peu, un panneau d'information indique le temps d'attente. Il paraît que ça calme les usagers.
RFI.
Notre livre, c'est aussi un questionnement sur notre métier. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas en chevalier blond de la banlieue. Hein. On se moque aussi de nous-mêmes. On s'est fait alpaguer par des jeunes qui nous ont demandé ce qu'on fichait là. Et il y en a un qui a eu une phrase très forte, je trouve, qui nous a dit « Mais c'est ça, vous venez faire votre beurre ici, et puis vous repartirez, on ne vous reverra plus. » C'est vrai que ça nous a interpellés. Enfin, on n'a pas été toujours glorieuses. Hein. Je me souviens de ce dimanche après-midi où c'était peu de temps après Charlie. On traînait au bas de la Forestière, qui est la cité du Haut-Clichy, qui est en cours de démolition. On était toutes les deux et il y a un groupe de jeunes qui jouent au foot. Voilà. Puis on passe devant eux et là, le silence se fait. Et on sent qu'il y avait un climat un peu hostile. C'était la première fois que ça nous arrivait vraiment. Et puis, je sais pas, il y avait personne. On était toutes les deux. Dimanche après-midi, quoi. Il faisait moche, il faisait froid. À cause des événements, l'ambiance était de toute façon assez pesante. Et on passe à côté d'eux. Et puis, ils nous font « Ouais, vous êtes journaliste ?» Et alors là, je sais pas ce qui m'a pris. Jamais j'ai fait ça. J'ai dit « Non, on n'est pas journaliste. » Parce que je pense que je me sentais pas rassurée, quoi. Alors que jamais, en 13 ans de carrière, j'ai menti sur ma profession. Et puis, bon, évidemment, le groupe s'est pas laissé avoir, quoi. Et ils nous ont dit « Ouais, et tous les journalistes, il y en a marre, on va sortir les calaches. » Voilà, c'était de la provoque à deux balles, mais pour dire qu'on se pose pas en Albert Londres des cités, quoi. On a eu des moments pas glorieux, on a eu des questions sur comment on fait un chapitre qui s'intitule « Quatre consciences de la journaliste en milieu clichois ». Et qui regroupe tous ces questionnements que nous, on peut avoir par rapport à notre pratique sur un terrain comme celui de Clichy. Et par exemple, c'était rigolo parce que ça peut sembler très anodin. Comment s'habiller quand on va à Clichy ? Moi, je mets pas mal de jupes et tout. Et moi, j'étais partisane d'aller à Clichy en mini-jupe, quoi. Enfin, comme je m'habille d'habitude. Enfin, pour moi, Clichy, c'est un territoire comme un autre. Je vais pas m'habiller en mode warrior parce que c'est soi-disant une no-go zone, ce que ça n'est pas, en plus. Donc pour moi, aller faire mes interviews en jupe, c'était aussi dire « Mais pour moi, Clichy, c'est un territoire banal, c'est un territoire comme un autre, où j'ai pas à m'apprêter de façon différente. » Ça peut sembler anecdotique, mais le fait qu'on s'en soit parlé, qu'on soit interrogé là-dessus, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que la banlieue serait un territoire à part, ce que je ne crois pas du tout. Mais voilà, je crois que c'est des territoires auxquels il faut rendre leur normalité.
Courte pause dans l'atelier, nous restons avec nos deux invités, à tout de suite.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur internet.
http://atelier.rfi.fr.
Atelier des médias, Barre McCoy et Joséphine Lebar sont deux jeunes journalistes françaises. Elles viennent de publier « Une année à Clichy, la ville qui rêvait qu'on oublie », un livre qui raconte le quotidien de la ville où les émeutes de 2005 ont débuté il y a 10 ans. Barre McCoy et Joséphine Lebar sont nos invités. Aujourd'hui, elles répondent aux questions de Manon Mella.
Dans mon
quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, non, pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lilas, on laisse le temps s'étaler, on voit le ciel en entier. On parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Dans mon quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les radins, les mondains, les malins, les pressés, les blasés, non, non, pas d'accès. Les filles ont les cheveux hirsutes, les garçons portent parfois des jupes. Sur les trottoirs, on écrit des poésies, les enfants claquent les doigts car la musique, c'est la loi. La 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 la.
Moi, je me souviens d'une phrase qu'on nous a dite là-bas, c'était « oubliez-nous ». Donc je pense qu'il y a une partie des habitants qui aimeraient juste qu'on parle plus de Clichy-sous-Bois, qu'on les laisse vivre leur vie tranquillement.
Bar McCoy.
Et en même temps, je pense qu'il y a une demande aussi pour présenter Clichy autrement.
Joséphine Lebar.
C'est-à-dire que plusieurs fois aussi, on a entendu cette phrase « ah bah ça, ça va montrer Clichy autrement ». Pas par rapport à notre travail hein, spécifiquement, mais sur d'autres choses. Il est important aussi pour les habitants de renverser l'image de cette ville. Le problème de Clichy, c'est que depuis les événements de 2005, elle est exceptionnelle, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là-bas, en un sens, est exceptionnel, au sens hors du commun. Hein. Après, enfin voilà, je sais pas, Hollande, il est venu... Combien de fois cette année à Clichy? Enfin, vous voyez, c'est combien de fois un président va visiter la même ville de banlieue? Il y a eu la mort de l'ancien maire Claude Hillin qui a fait que, alors là, on a eu tout le monde, de Hollande à Valls, en passant par Taubira, Larcher, Bartolone, tout le monde était là. Mais Najat Vallaud-Belkacem est venue faire la rentrée scolaire à Clichy. François Hollande est venu au moins deux fois. Enfin, c'est pas normal, ça. Enfin, vous voyez, ça, Clichy, elle a forcément un statut exceptionnel de par son histoire. Elle devient un symbole malgré elle. Je pense qu'elle aimerait bien se défaire de cette dimension dramatiquement symbolique pour se construire sur autre chose. Et elle en a les capacités. Et elle en a la possibilité parce que c'est une ville incroyable, sincèrement. C'est-à-dire que nous, on y avait déjà enquêté plusieurs fois et il y a vraiment une dimension dément à Clichy. C'est-à-dire que c'est une ville qui vous attire. Personnellement, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, mais quand vous y avez été travailler, vous avez envie d'y retourner. Je me l'explique pas, mais c'est un des rares lieux qui, au cours de ma vie professionnelle, m'a fait cet effet-là. Je crois même que c'est le seul.
Il y a un paradoxe quand même, parce que les journalistes parlent beaucoup de Clichy. À la fois, ça sert Clichy, parce que Clichy attire l'attention. C'est un laboratoire de plein d'idées. Il y a plein de sociologues qui vont là-bas, des architectes. Les associations, du coup, peuvent avoir un certain nombre de subventions. Donc à la fois, il y a des retombées positives. Et en même temps, cette image qui colle à Clichy de ville d'émeute, de villes violentes, de villes dont il faut s'occuper parce que ça va mal et qui collent ensuite aux habitants. Nous, il y a des habitants qui nous ont raconté que du coup, c'est compliqué sur leur CV d'avoir Clichy-sous-Bois. Ils ont du mal du coup à obtenir des emplois quand il y a Clichy-sous-Bois sur le CV. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je pense que le milieu des journalistes et le milieu des Clichois ne vivent pas dans le même milieu. Quand on nous a insultés, quand on passait dans cette cité de la Forestière, et que les jeunes nous ont insultés, ce qu'ils voyaient en nous, à mon avis, c'est pas seulement des journalistes, c'était aussi, je pense, peut-être des Parisiennes ou des gens d'un autre milieu social. On s'est demandé comment ils nous ont reconnus.
Ce que j'allais vous demander, est-ce que vous aviez des caméras, des micros ?
Mais pas du tout, on se baladait jamais avec des micros, même notre carnet de notes, parfois on le sortait pas. En fait, on essayait de se fondre dans le décor, mais en fait, moi j'étais plutôt partisane de m'habiller comme quand j'habitais à Rosny-sous-Bois, et d'essayer d'être le plus simple possible. Et j'avais pas trop envie qu'on comprenne que je suis une journaliste. J'avais pas trop envie qu'on comprenne que je venais d'ailleurs. Mais les gens comprenaient quand même, en fait. Et je me souviens, quelqu'un m'a dit « Mais c'est normal, t'as vu tes lunettes, elles sont toutes rondes, on dirait une Parisienne. » Et donc, moi, je pense que ces jeunes-là, ils ont dû nous percevoir comme des gens d'un autre milieu. Et je pense qu'ils avaient une rancœur contre cet autre milieu. Alors, est-ce que c'est ce milieu qui a plus de fric? Est-ce que c'est ce milieu qui ressentent comme hautain? Ou est-ce qu'ils se sentent rejetés? Je sais pas, du coup, on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça.
Pourtant, il y a des efforts qui ont été faits quand même au niveau des recrutements au sein des rédactions. À votre avis, ça n'a pas d'effet?
Moi, je me garderais bien d'avoir un avis là-dessus parce que je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Enfin, je pense que ça ne se joue pas qu'au niveau des journalistes, mais aussi au niveau de leur supérieur hiérarchique. Quelle vision, eux, ont-ils de la banlieue ? Quelle vision, eux, ont-ils de la jeunesse ? Donc je pense qu'il y a aussi ça, hein, quand vous êtes journaliste dans une rédaction, vous dépendez de chefs de service, de rédacteurs en chef qui ont le dernier mot, qui peuvent orienter vos sujets aussi, enfin, vous demander de l'anglais de telle ou telle façon. Après, à vous d'argumenter et d'être en mesure d'avoir une discussion avec vos supérieurs. Donc je sais pas, hein, mais je pense qu'il y a quand même des schémas qui sont assez ancrés, quoi. Puis j'imagine qu'il y a des images de la banlieue qui sont plus télégéniques que d'autres, sans doute, que le jeune encapuchonné, la bonne image d'Épinal, on a envie de voir ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'est compliqué pour moi, c'est juste une hypothèse que je formule, hein, n'étant plus en rédaction depuis quelques années, travaillant pour la presse écrite, où je pense que c'est quand même plus facile de faire passer des choses qu'en télé, par exemple. Parce qu'on en a vu des journalistes de télé quand on était à Clichy. Je ne vais pas dire le nom de la chaîne, mais on va dire d'une chaîne d'information en continu qui couvrait la mort de Claude Dillin. Donc l'ancien maire de Clichy, sénateur, qui était quand même une figure emblématique. On croise un jour au McDo deux journalistes donc de cette chaîne d'info en continu qui nous disent « Ah bah voilà, on fait un reportage, machin, nanana, on discute un peu » et on leur dit « Ah bah... bon, on se revoit demain à l'hommage républicain, donc en l'honneur de Dillin. Ah bah non, ce sera pas moi, ce sera sans doute un collègue. » Donc c'est-à-dire que le mec, il peut même pas suivre son sujet sur deux jours. Il est là une demi-journée, le lendemain, il passe le relais à quelqu'un d'autre. C'est quand même compliqué, dans ces conditions, de construire quelque chose, de creuser à fond. Je pense que nous, en presse écrite et en radio, c'est quand même plus facile.
L'an dernier, la police a saisi plus de 200 kilos de cocaïne à Paris et dans sa banlieue. Aujourd'hui, dans la capitale, la cocaïne est livrée à domicile, comme des pizzas.
RFI. Pendant toute l'écriture de ce livre, on avait une phrase qui nous a servi un peu de mojo. C'était « Ni Bisounours, ni Bernard de la Villardière ». À chaque fois qu'on rendait un texte, et tout, on disait « Bon, c'est pas trop Bisounours, bon, c'est pas trop Bernard de la Villardière ». Bref, nous, on voulait pas que ce soit soit la banlieue rose bonbon, soit la banlieue en mode misérabiliste. On peut être tenté par l'un ou l'autre. Je pense que nous... on a plus craint d'être du côté bisounours parce que, justement, ce territoire, c'est un territoire qu'on aime. Donc, on a été extrêmement vigilante là-dessus. Et je pense qu'être deux, ça aussi, hein, je pense que c'est une vraie force parce que on se complétait bien. On n'a pas le même regard, on ne posait pas les mêmes questions. Voilà, on était assez complémentaires. Et ça, c'est une vraie chance d'avoir comme ça quelqu'un en miroir avec qui vous pouvez échanger. Après, je sais pas, avoir rencontré quelqu'un, on n'avait pas forcément le même ressenti, on n'avait pas forcément vu les mêmes choses. Moi, je me souviens de l'entretien avec monsieur M au McDo, c'était un monsieur avec qui l'interview était prévue depuis longtemps, et puis qui, au bout de 10 minutes, a décidé qu'en fait, il n'allait pas nous la donner pour X et X raisons. Moi, j'étais furieuse, quoi. Et Bahar était beaucoup plus posé. Et enfin voilà, je pense que c'était intéressant pour nous cette dualité parce que les gens accrochaient avec l'une ou avec l'autre. C'était assez intéressant de ce point de vue-là, je trouve.
Ce matin-là, nous avons rendez-vous au McDo avec Monsieur R, venu de Mauritanie. Cet ancien policier a investi dans un appartement aux chaînes pointues avant de voir son bien racheté par la mairie. Si d'autres propriétaires ont été relogés ailleurs, lui est devenu locataire de son ancien logement. Il est convenu de longue date que nous en discutions. Tout débute sous les meilleurs auspices. Fidèle à l'hospitalité clichoise, Monsieur R nous offre le café. Tenter de payer quoi que ce soit dans cette ville relève de la gageure, et nous entamons la discussion. Elle roule jusqu'à ce que je demande à Monsieur R comment il est arrivé en France. Son grand corps se tend. Ce n'était pas le sujet prévu, on devait parler de mon appartement, pas de ma vie privée. Je tente de le rassurer. Si nous voulons faire son portrait, nous avons besoin de quelques éléments biographiques antérieurs à son arrivée à Clichy. Monsieur R secoue la tête. Ça ressemble à un interrogatoire de police, ce que vous me demandez. Montrez-moi vos cartes de presse. Or, la matinée s'annonce franchement mal. Ni Bar ni moi ne la possédons.
En fait, il faut pas avoir de tabou, aller voir tout le monde, mais pas avec une idée préconçue. Enfin, je pense que nous, on n'avait pas d'idée préconçue quand on allait voir les gens. On se laissait surprendre par les récits. Et on les interviewait tous de la même manière, quel que soit leur métier. Que ce soit le maire de Clichy-sous-Bois, un écrivain très connu qui s'appelle Éric Reynard qui a grandi à Clichy-sous-Bois, Madeleine, une habitante du Chêne Pointu, qui est retraitée aujourd'hui, Nathalie, qui est au chômage, Giscard, qui vend des diamants et qui bosse pour le MEDEF, Malek, qui est juste un étudiant de 17 ans qui adore se balader dans sa ville. Donc je pense que c'est juste la manière de se comporter, les questions qu'on pose, et mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
Juste, je voulais revenir sur ce que disait Bar. Quand elle disait « on est venu sans idée préconçue ». Moi, je prétends pas être venu sans idée préconçue. J'avais sans doute des a priori. Hein. Le truc, je crois, c'est qu'il faut être prêt à les remettre en question, c'est-à-dire à se laisser désarçonner. On a été à la kermesse de l'école musulmane de Clichy. Moi, ça m'a questionnée de voir des petites gamines de 6 ou 7 ans qui se baladaient voilées. J'ai tourné et retourné ça dans ma tête. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me dérange, moi, là-dedans? Et surtout, on est retourné voir après le directeur en disant, bah voilà, ça nous a questionnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc ça prend du temps. Ça veut dire que, voilà, il faut y retourner. Mais en même temps... Moi, ça me semblait... Je pouvais pas rester sur cette impression avec juste mon sentiment à moi, qui n'est peut-être pas les codes, qui n'est peut-être pas tout compris, à qui des choses ont sans doute échappé. Et je pense que là, encore une fois, c'était important d'être deux, de dire, bon, est-ce que toi, là, t'as tiqué ou pas? Ou moi, je voyais vraiment pas ça comme ça, ou c'est moi, ou là, il y a un truc qui m'a dérangé. Je pense que c'était intéressant, justement, d'avoir toujours ce double regard, pour ne pas être trop sûr. Voilà, je crois qu'en fait, c'est ça. C'est ça, la meilleure façon de traiter la banlieue, c'est d'accepter le doute et d'accepter de ne pas avoir tout bon. Et je pense que notre génération de journalistes, elle est peut-être plus prête à ça que les précédentes. Parce que, justement, notre situation économique est plus complexe. On est, par essence, plus dans le doute que les journalistes baby-boomers pour qui ça a quand même été les golden years, quoi.
Mais qui sont nos rédacteurs en chef en général. Moi, je pense qu'il y a des journalistes qui rentrent de reportages qui n'ont pas vu ce que leur rédacteur en chef leur demandait sur le terrain et qui défendent aussi leurs idées. Heureusement, parce que sinon on n'aurait pas de bons articles. Donc il y a des gens aussi qui sont partis avec un plan au départ et qui acceptent de le changer. Heureusement, il y en a. Mais ça demande d'avoir aussi un petit peu de force de caractère ou d'être prêt parfois à s'opposer. Puis il y a aussi des rédacteurs en chef qui sont éclairés. Faut pas qu'on fasse de généralité. Alors c'est vrai qu'en parlant de 2005 avec les Clichois et des allées et venues de journalistes, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient vu des journalistes de toutes les nationalités. Des Russes, des Chinois, des Japonais, des Allemands. Quelqu'un avait noté qu'ils avaient des comportements différents. Les Allemands posaient beaucoup de questions sur le sport.
La réussite par le sport, ouais. Voilà.
C'est ça.
Les Japonais, ils allaient à la mairie se faire montrer sur un plan l'endroit où était le transformateur. Ils y allaient en bagnole, ils faisaient leur plan du transfo et ils repartaient, en fait.
Et ce que ça donne en vision déformée chez certains habitants, c'est qu'il y a une dame qui nous raconte qu'elle voit des quarts de Chinois venir prendre des photos du transformateur et partir. Donc vous voyez la déformation aussi chez les gens. Une habitante qui nous avait raconté qu'un journaliste essayait de lui faire dire quelque chose. C'était pas ce qu'elle voulait dire. Les gens se plaignent souvent du comportement des journalistes. Ils retiennent que le négatif aussi, malheureusement. Nous, on arrive derrière. C'est vrai que c'est pas évident. On se rend compte qu'il faut regagner la confiance.
Oui, il y avait aussi
Joséphine.
Ces journalistes qui avaient promis... On a été aussi au cours de l'ASTI, l'association de soutien aux travailleurs immigrés. Et il y avait une jeune femme qui s'était énervée quand elle avait su qu'on était journaliste, parce que elle disait, moi, j'arrête pas de raconter de mon histoire à plein de journalistes et ça change rien. Ça change rien. Et en fait, en lui faisant raconter un peu ce qui s'était passé, on avait compris que des journalistes lui avaient promis, en fait, de l'aider à avoir ses papiers en échange de son histoire. Donc, nous, ce qu'on lui a dit, c'est qu'effectivement, on aimerait qu'elle nous raconte son histoire, mais qu'en échange, on ne pouvait rien lui promettre. Et cette femme, elle était mais en rage contre la profession, parce que effectivement, visiblement, on lui avait promis le monde des merveilles et qu'il s'était rien passé pour elle. Et que effectivement, c'est usant de raconter toujours son histoire, une histoire douloureuse en plus, à 10 médias différents.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing.
Sauvage se pose à Clichy 4 à 5 mois par an. Elles s'installent sur l'étang du parc de la mairie pour y concevoir leurs oisons. C'est là qu'elles apprendront aux petits, pas plus gros qu'un point, comment battre des ailes avant la grande migration. Après Clichy, elles partiront vers l'Afrique. Les oies suivent les mouvements contraires de ceux des hommes. Elles s'envolent pour le sud pendant que des milliers de migrants africains rêvent de franchir la Méditerranée, rejoindre l'Europe, la France et Clichy. D'après un jeune Marocain rencontré aux Chênes Pointues, le mot est passé là-bas. Si tu cherches un appartement en France, retiens bien le nom de cette ville. Direction Clichy-sous-Bois, pour atterrir sur cet étang. Les oies, ces mères courage, ont parcouru des milliers de kilomètres. 2000 kilomètres, ça fait combien de battements d'ailes ?
Ils pensent quoi de vous, les habitants de Clichy ? Est-ce que vous avez eu des retours ?
Je crois qu'ils devaient se demander ce qu'on faisait là, tout le temps, à traîner, à errer, la blonde et la brune.
Oui, je crois qu'il y a ça aussi. On les faisait bien marrer, en fait, parce que... Bon, voilà, c'est pas très radiophonique, mais il s'avère que Bahar et moi, physiquement, on est très différentes. C'est-à-dire que Bahar est brune, d'origine iranienne, fluette. Moi, je suis plutôt blonde et un peu charpentée. Donc, je pense que ça faisait... Notre attelage faisait assez marrer les gens, quoi. Ça faisait vraiment l'iranienne et la bavaroise en sortie. Je pense que, déjà, ce côté un peu dichotomique nous rendait sympathiques.
Puis, on n'a pas de voiture. Donc on y allait toujours en transport en commun, à pied, et on sillonnait la ville. Donc je pense qu'ils devaient nous voir faire des allées, venues. C'est pour ça que je disais qu'on s'est fondu dans le décor finalement, parce qu'à force d'y aller, ils nous ont vu passer tout le temps. Et c'est vrai que je crois qu'on les a fait rire plusieurs fois. Ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait là. Pourquoi on revenait tout le temps ?
Oui, et puis c'est vrai que je pense que quand même c'était un peu illusoire de vouloir se fondre dans le décor. Je veux pas te... ah. En tout cas, enfin, moi, j'y ai jamais trop cru, mais les gens sont plutôt chaleureux, quoi. Après,
Tu sais pourquoi je dis se fondre dans le décor ? Parce que, ayant grandi en banlieue, ça me rend quand même triste de me sentir rejetée quand je vais à Clichy-sous-Bois, les rares fois où ça m'est arrivé. Ça me rend triste parce que c'est chez moi aussi. J'habitais pas loin de la Seine-Saint-Denis. Et de me sentir rejetée parce que maintenant j'ai un autre métier. Que je suis journaliste, c'est vrai que ça m'a rendu triste. Donc c'est pour ça que je voulais me fondre dans le décor aussi à titre personnel. C'est peut-être illusoire.
J'ai pas du tout le même ressenti. C'est
ouais.
Moi, ce qui me rendait triste, c'est pendant toutes mes années d'études, quand je disais que je venais de Seine-Saint-Denis, voilà, moi j'ai fait Sciences Po, donc d'avoir le petit moment genre « Ah bon, tu viens de Seine-Saint-Denis ?» J'étais à Sciences Po au moment où se sont décidées les conventions ZEP, où il y avait eu des débats assez houleux, où l'UNI avait été assez remontée contre la venue d'étudiants de banlieue. Ça m'avait vraiment choqué. Ça m'avait vraiment fait de la peine. Et je pense que dans ce projet, il y avait aussi une volonté de réparer ça, de dire on vient d'un territoire qui vaut la peine d'être connu, qui vaut la peine d'être rencontré. Laissez-nous vous montrer, quoi. On peut vous montrer autre chose en tant que journaliste et en tant que banlieusarde. De part de notre identité qu'on revendique aussi fortement l'une que l'autre, qui sont aussi constitutives, je crois.
Vous avez envie de parler de Clichy-sous-Bois, mais elle a envie qu'on l'oublie. C'est le titre de votre livre, alors comment on fait ?
Alors on a choisi ce titre parce qu'elle a envie qu'on oublie une partie d'elle, mais elle n'a pas envie de tomber dans l'oubli. Elle a envie qu'on se souvienne d'elle pour autre chose que ce pour quoi on la connaît aujourd'hui.
Donc il faut en parler autrement.
Voilà.
C'est ça la solution.
Exactement.
Est-ce que maintenant, après cette expérience, vous allez en parler autrement au sein de toutes les rédactions pour lesquelles vous travaillez ? Est-ce que ça va influencer votre travail ?
Bah, c'est déjà fait. On en a parlé toute cette année. On a parlé autour de nous de Clichy. On l'a raconté aux amis et aux collègues. Et ça a suscité leur curiosité. Et j'espère que ça va avoir un effet. Le livre, c'est fait pour ça aussi. J'espère qu'ils vont le lire. J'espère que du coup, ça leur donnera des idées, même de sujets, pas qu'à Clichy, ailleurs, d'aller voir les choses un peu différemment. Pas que pour les journalistes aussi. Tout le monde, en fait.
Joséphine.
Mais je crois que, enfin voilà, on avait déjà beaucoup d'affection pour Clichy, donc je crois pas que ce livre ait changé notre façon de la voir. Au contraire, ça a juste renforcé l'affection qu'on a pour elle, mais je crois qu'on l'a toujours défendue telle que nous on la voyait dans nos rédactions, et on a été entendus. Si on a réussi à faire des papiers avant sur Clichy, c'est bien qu'il y avait des gens qui avaient entendu qu'on pouvait montrer d'autres choses de cette ville. Et je crois qu'effectivement, ça se joue peut-être plus au niveau des lecteurs. Je sais pas, quand on a commencé notre livre, il y avait le suicide français d'Éric Zemmour qui venait de sortir. Ça nous embêtait que cette voix-là domine le discours ambiant. Et parce qu'Éric Zemmour sur les banlieues, on peut pas dire qu'il soit très tendre. Donc voilà, on avait aussi envie de dire on peut entendre autre chose, on peut donner autre chose à lire, autre chose à voir sur les banlieues. Ben moi, j'espère que on donnera envie à des gens d'aller voir cette très belle vue sur l'Île-de-France depuis la pelouse à côté du collège Robert Doisneau, qu'on leur donnera envie d'aller voir du côté de la Guinguette, qu'on leur donnera envie d'aller manger une pizza chez Ella en buvant un Ayran, qu'on leur donnera envie de rencontrer tous ces gens qu'on a eu la chance de rencontrer, qui sont assez incroyables, qui vous donnent la foi et qui vous montrent que le vivre ensemble, c'est possible.
Je pense qu'on espère aussi que les gens qui sont confiés à nous vont être contents, que ça leur ait fait du bien, que ça fasse du bien aux clichois qui le lisent, qui se rendent compte qu'on peut aussi s'intéresser à eux pour d'autres choses que les émeutes, que les violences. Et je pense que ce qu'on espère aussi, c'est qu'on les ait marqués aussi en tant que journalistes et que peut-être on ait contribué à une petite réconciliation entre notre métier et notre origine. Notre métier est Clichy et la banlieue. Que peut-être tous ces gens qui nous ont vus passer dans la ville, errer dans les rues, aller et venir, peut-être que du coup, pour eux aussi, l'image des journalistes, j'espère, va changer un petit peu, qu'on arrête de dire tout le temps les journalistes, comme on dit, les musulmans, qu'on fasse pas de généralité aussi. Ça, j'espère.
Le livre de Bar McCoy et Joséphine Lebar est publié chez Stock. Son titre, Une année à Clichy, la ville qui rêvait qu'on l'oublie. C'est un ouvrage aussi sensible que ses deux auteurs. Merci à elle. Merci également à Ludivine Amado pour la lecture des textes. Merci enfin à Stéphane Burgat qui a pris le son de notre entretien avec François Becker de l'AFP.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
L'émission que vous venez d'écouter a été diffusée pour la première fois le 31 octobre 2015.
Après une année bien chargée, l'atelier des médias prend du repos pour 2 mois. On laisse la place à Vladimir Cagnolari qui, dès la semaine prochaine, vous proposera un magazine d'aventure littéraire intitulé « Comme un roman ». Le navire atelier des médias vous retrouve à la rentrée le 3 septembre. À bord, c'est le capitaine Julien Lebotte qui tiendra le gouvernail pendant quelques mois à la place de Ziad Malouf. L'officier Simon de Creuse et les moussaillons Mathias Virilli, Camille Deloche et moi-même seront toujours présents. Salut à toutes et à tous.
Attention, la pression, chape de béton. Attention le plomb, trop, les pilons, c'est pas bon. Attention le mur, c'est trop dur, dur, lourd, c'est trop fort. Attention le fer, stop, c'est l'enfer, c'est trop dur. Attention à la brûlure. Et le bruit, et le cri, et le son. Attention le son, string, trombe, explosion. Attention danger, la cloison, écrasée, chape d'acier. Et les rayons, électricité, c'est pas bon. Attention, accélération, c'est pas bon. Assez, 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 assez.